Bienvenue pour un nouveau journal sur RFI. Il est maintenant 16h, temps universel, 17h, ici à Paris.
Charlotte Idrac.
Et à la une des excuses de Vladimir Poutine à son homologue d'Azerbaïdjan après le crash d'un avion d'Azerbaïdjan Airlines cette semaine. La Russie ne reconnaît pas clairement sa responsabilité, mais reconnaît tout de même que sa défense antiaérienne était en action. Vladimir Poutine appelle à une enquête objective et transparente. Une chaîne humaine à Tbilissi ce samedi, nouvelle manifestation contre le gouvernement, et cela alors que le nouveau président Mikhaïl Kavelachvili doit être investi demain. De quoi enfoncer encore un peu plus le président déchu en Corée du Sud. Selon le parquet, Yoon Suk-yeol avait autorisé l'armée à ouvrir le feu pour entrer au Parlement lors de sa tentative ratée d'imposer la loi martiale début décembre. Des drapeaux géorgiens rouges et blancs et ceux de l'Union européenne brandis cet après-midi donc à Tbilissi en Géorgie. Une nouvelle manifestation contre le gouvernement pro-russe à la veille de l'investiture contestée du nouveau président Mikhaïl Kavelachvili. La présidente Salomé Zourabichvili, pro-européenne, a déjà dit qu'elle ne comptait pas quitter son poste sans l'organisation de nouvelles législatives. Mais pour faire face au gouvernement pro-russe, l'Union européenne a du mal à se mettre d'accord sur un soutien ou non à l'opposition, souligne Lucas Masek, chercheur à l'Institut Jacques Delors.
Ce qu'on peut observer, c'est que l'Union européenne semble relativement divisée entre d'un côté les pays baltes qui prônent une position ferme et qui ont pris de l'avance, qui ont effectivement adopté par exemple un certain nombre de sanctions plus fortes que ce qu'a fait l'Union européenne. De l'autre côté, on a deux pays, la Hongrie et la Slovaquie, qui au contraire sont sur une ligne totalement opposée. Ce qui aujourd'hui reste à confirmer, c'est finalement tout le reste de l'Union européenne et notamment les grands États de l'Union européenne, quelle sera la position. Et aujourd'hui, c'est pas très clair. Il y a eu des discussions au Conseil sur les sanctions où la Hongrie et la Slovaquie ont posé leur veto. Et donc, ça sera plutôt à chacun des États de se positionner. Ça reste un grand point d'interrogation.
Voilà, Lucas Masek, chercheur donc à l'Institut Jacques Delors. Alors, contacté par Victorien Thomas. L'appel de Vladimir Poutine à une enquête objective et transparente après le crash de l'avion d'Azerbaïdjan Airlines cette semaine qui a fait 38 morts. Le président russe en a parlé au téléphone avec son homologue d'Azerbaïdjan. Il n'a pas reconnu clairement la responsabilité de la Russie, mais le Kremlin a admis dans le même temps que la défense anti-aérienne russe était en action au moment du crash. Et Vladimir Poutine a présenté ses excuses à Ilham Aliyev pour le fait que cet incident tragique, je cite, se soit produit dans l'espace aérien russe. La crise politique en Corée du Sud, il y a eu de nouvelles manifestations pro et anti-Yoon ce samedi. Yoon Suk-yeol, le président déchu, après sa tentative d'imposer la loi martiale il y a près d'un mois, et on en sait un petit peu plus sur ce qui s'est passé cette nuit-là, ce 3 décembre, avec un rapport du parquet sud-coréen. Selon ce rapport, le président avait autorisé l'armée à ouvrir le feu pour entrer au Parlement, Camille Ruiz.
Ce sont des paroles à glacer le sang. Elles auraient été prononcées le 3 décembre dernier dans un appel téléphonique à un commandant militaire qui se trouvait aux abords de l'Assemblée. Le président aurait ordonné, je cite, de détruire les portes avec une hache si nécessaire ou encore de faire sortir les gens même si ça veut dire qu'il faut tirer. Il y a presque un mois, après la déclaration de la loi martiale, des soldats ont pris d'assaut le Parlement sud-coréen. Ils ont escaladé des barrières, brisé des fenêtres. Des hélicoptères de l'armée ont même atterri sur le toit du bâtiment. Les parlementaires ont réussi à voter le retrait de la loi martiale, mais depuis, le pays est plongé dans une grave crise politique et économique. Hier, l'Assemblée nationale a suspendu le Premier ministre et président par intérim deux semaines après la destitution de Yoon Suk-yeol. L'avocat du président estime que les informations du parquet sont biaisées. Le rapport de presque 10 pages précise aussi que le président discutait de la loi martiale avec des hauts responsables militaires en mars dernier. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
Un bulletin bleu, un jaune et un rouge. Triple scrutin ce week-end au Tchad pour des législatives, des provinciales et des communales. Les opérations de vote ont débuté aujourd'hui par les militaires et les nomades avant le reste de la population demain. Les principaux opposants ont appelé au boycott s'ils dénoncent une mascarade jouée d'avance selon eux.
RFI, Radio France Internationale.
C'est un hôpital crucial pour les populations du nord de la bande de Gaza. C'était l'hôpital Kamal Adwan n'est plus en état de fonctionner. Il est hors service selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui précise désormais qu'il est vide, cet hôpital. Il a été fortement endommagé par un raid israélien et selon le ministère de la santé du Hamas, son directeur est détenu par l'armée israélienne. En Turquie, le fondateur du PKK a reçu de la visite aujourd'hui. Abdullah Öcalan, emprisonné à vie sur une île au large d'Istanbul. Une délégation du parti turc pro-kurde DEM s'est entretenue avec lui après avoir obtenu le feu vert du gouvernement. La dernière visite du parti, qui s'appelait à l'époque le HDP, c'était en 2015. Par ailleurs, le chef de la diplomatie turque a indiqué aujourd'hui que les combattants kurdes syriens ne pouvaient pas être tolérés en Syrie. Il l'a dit à son homologue américain, Anthony Blinken, référence aux forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes et appuyées par les États-Unis, qui contrôlent de vastes territoires dans le nord-est de la Syrie. Alors que l'administration américaine va changer dans quelques semaines avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le Mexique prend en compte les positions anti-migration du futur président américain et les expulsions annoncées. Le gouvernement mexicain a annoncé une stratégie pour aider ses compatriotes établis aux États-Unis en cas d'urgence, qu'ils soient en situation régulière ou non. Il y a donc une application pour les cas d'urgence qui va être lancée au début de l'année, Gwendolina Duval.
Il s'agit d'une sorte de bouton de panique pour les Mexicains résidant à l'étranger. Une alerte envoyée à l'un des 53 consulats, à la famille et aux instances de représentation diplomatique. Les personnes pourront l'activer dans le cas d'une arrestation imminente sur le territoire américain. Le gouvernement de Claudia Sheinbaum ambitionne également de lancer début janvier un numéro de téléphone accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 depuis les deux pays pour offrir des conseils juridiques sur ces questions migratoires. Il s'agit de tout un plan pour aider les Mexicains de l'étranger, aux États-Unis surtout, angoissés de la prochaine arrivée au pouvoir de Donald Trump. Le ministre des Affaires étrangères mexicain insiste pour rappeler que chaque expulsion doit être ordonnée par un juge pour être légale. Il recommande à ses concitoyens de déclarer leurs enfants sur place et un bon nombre de démarches administratives seront numérisées pour éviter aux gens de se déplacer physiquement dans les consulats, et ce en cas d'éventuelle intervention des services de la migration. Au Mexique, le gouvernement et les organisations de défense des droits de l'homme se préparent dans le cas où le prochain président des États-Unis mettrait à exécution ces menaces d'expulsion massive. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
Toujours pas de commentaires ni de motifs officiels avancés en Iran sur la détention de Cecilia Sala. Cette journaliste italienne a été arrêtée le 19 décembre à Téhéran, selon Rome, qui dénonce une arrestation inacceptable. Lui est emprisonné en Indonésie depuis 2005. Le français Serge Atlaoui, condamné à mort pour trafic de drogue. Eh bien, le gouvernement français a demandé officiellement son rapatriement, un transfert qui pourrait alors empêcher sa condamnation à la peine de mort, Louekal.
Ça fait 19 ans qu'il patiente dans le couloir de la mort. Serge Atlaoui est arrêté le 11 novembre 2005 dans une usine près de Jakarta, en Indonésie. À l'époque, il est artisan soudeur et il se rend dans une usine qu'il pense être une usine d'acrylique pour y installer des machines industrielles. En réalité, c'est un laboratoire qui produit de l'ecstasy. Serge Atlaoui est alors accusé de trafic de drogue, ce qu'il a toujours démenti. D'abord condamné à une peine de prison à perpétuité, la Cour suprême aggrave sa peine et le condamne à mort. À plusieurs reprises, la France a fait pression sur l'Indonésie pour empêcher cette exécution. Et ce 19 décembre, le gouvernement français a officiellement demandé le transfert de Serge Atlaoui. Depuis quelque temps, l'Indonésie a ouvert la voie à ses rapatriements de prisonniers étrangers. Il y a quelques jours, 5 Australiens emprisonnés depuis 19 ans ont regagné leur pays d'origine. Et la Philippine Marijane Veloso, condamnée à mort pour trafic de drogue, a été rapatriée à Manille ce 18 décembre.
Louekal, et puis le meilleur joueur d'échecs au classement mondial, Magnus Carlsen, s'est retiré des championnats du monde de partie rapide hier. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il avait été sanctionné pour port de gin pendant la compétition à New York. C'est interdit par le règlement. Le Norvégien a d'abord reçu une amende, puis un avertissement pour changer de pantalon. Qu'à cela ne tienne, le maître des échecs de 34 ans a donc quitté la compétition. Il a écrit « Je suis trop vieux désormais pour me prendre la tête. Je vais sans doute aller vers un lieu où le temps est un peu plus sympa qu'ici. » RFI 17h10 à Paris, c'est l'heure de retrouver la sympathique équipe de Mondial Sport. Bonne émission.